backlash. Je veux dire, il y a un côté excessif dans ce qu'on fait pour les femmes en ce moment.
Bonjour à toutes et à tous. Un jour, c'est promis, on réussira à tenir une semaine d'émission sans prendre un mot anglo-saxon. Un jour, mais pas aujourd'hui, puisque cet après-midi, on va parler du phénomène du backlash. On aurait pu faire une émission sur le retour de bâton, mais c'était moins sexy. Le backlash, pourtant, si le terme sonne bien, eh bien c'est tout sauf sexy, puisqu'il s'agit de ce retour de bâton, précisément ce retour de flamme qu'expérimentent trop souvent les droits des femmes après de grandes avancées. Une sorte de recul conservateur qui ne concerne pas que les femmes, d'ailleurs, mais aussi toutes les minorités, on va le voir. Ce backlash est-il systématique? Comment l'expliquer? Comment le déjouer? Peut-on le déjouer? J'aimerais vous dire que je suis optimiste, hélas, quand j'entends Cyril Lacarrière, notre rédacteur en chef, parler de Sandrine Rousseau en conférence de rédaction.
Bon, je récapitule dans le calme. On la débusque. On la passe à l'acide. On la découpe au laser. On la dissout et on balance ce qui reste dans le lac de Bonneville.
Oui, je prends conscience dans ces moments-là que le phénomène du backlash est vraiment inquiétant.
Zoom, zoom, zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Pour analyser ce retour de bâton réactionnaire, deux journalistes si progressistes, si ouverts, si en phase avec leur époque, qu'ils ne disent pas le backlash, mais le bacle. Oui, Manon Mariani et Quentin Lui appartiennent à une génération qui va vite, qui n'a pas le temps à perdre avec des voyelles. Bonjour les âmes.
Bonjour,
bonjour Mathieu. Bonjour tout le monde.
Bonjour tout le monde.
Manon Mariani, quelle trajectoire. Quand on pense qu'il y a 31 ans, votre père, Ange Mariani, berger ménestrel du petit village de Figolu, sur les hauteurs de Calvi, couper le cordon avec ses dents,
oh non,
alors que le groupe Imouvrini se recueillait au-dessus de votre berceau, tels les rois mages en Galilée, mais en Corse. Et aujourd'hui, vous êtes là, fer de lance d'une nouvelle génération de journalistes qui va chercher l'info sur les réseaux sociaux, car en 2022, c'est souvent là que surgit ce qui fera la une demain.
Et aujourd'hui, focus sur une nouvelle application américaine qui a une particularité, Mathieu, elle nous veut du bien, et c'est assez rare pour être souligné, du coup, je vous en parle dans ma veille sanitaire.
Ah, un truc un peu positif pour une fois.
Et ça, bisous ça à mon papa Ange.
Et bisous à Ange, bien sûr. Face à vous, Manon, il est ce que la Normandie a fait de mieux après le Livaro. Quelle success story là aussi pour celui qu'on surnomme désormais le Gad Elmaleh d'Alençon. Depuis son jeu de mots mercredi sur la ville du Mans.
Je me dis que j'ai presque envie d'y rester. En fait, ils ont raison, les gens du Mans. Autant y rester 24 heures.
Quentin, entre deux fulgurances humoristiques, vous aimez promener votre micro sur les routes de France pour demander aux passants ce qu'ils pensent de notre mot du jour. Alors, ce backlash, ça leur inspire quoi?
C'est un sujet pris très au sérieux dans la rue. Le backlash fait peur, inquiète, et pour certains, c'est aussi normal qu'il y ait une réponse aux changements de la société, qui sont parfois, pour eux, vraiment excessifs.
Si vous aimez Quentin Lui et Manon Mariani, retrouvez-les dans le Zoom Zoom Test, ce quiz qui tient plus de la scène de ménage que du quiz, aux alentours de 16h30. En toute fin d'émission, ne manquez surtout pas l'analyse, certainement tout en nuances, du backlash par Pierre Thévenoud. Mais pour l'heure, accueillons celle qui va justement nous permettre de mieux cerner cette expression. Bonjour Amandine Claveau.
Bonjour, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de l'Observatoire Égalité Femmes-Hommes de la Fondation Jean Jaurès. Vous avez publié en mars dernier l'essai « Droits des femmes, le grand recul » où vous expliquez comment la crise sanitaire a engendré une forte régression des droits des femmes en Europe. Ça, c'est typiquement ça le backlash.
Tout à fait. Vous l'avez bien résumé. En fait, la crise sanitaire a été un accélérateur des inégalités entre les femmes et les hommes, qui étaient déjà structurantes dans nos sociétés, mais qui, en fait, se sont accélérées durant cette pandémie sous tous les aspects, hein, que ce soit les questions de violence contre de violence sexiste et sexuelle, mais aussi la question de l'accès à la contraception et le droit à l'IVG, mais aussi la question de l'égalité professionnelle ou encore la question de la représentation des femmes dans les instances de décision. Et sur la partie plus spécifique de l'accès à la contraception et droit à l'IVG, là où on voit au niveau international ces différents reculs, la crise sanitaire a été instrumentalisée par des gouvernements conservateurs pour justement réduire l'accès à l'IVG, que ce soit en Pologne, mais aussi en Slovaquie, en Roumanie, en Hongrie.
On va revenir sur tous ces points précis. Face à vous, Amandine, j'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur, mais je n'aime pas mentir. Disons pudiquement que sur l'échelle de ses préoccupations dans la vie, le backlash arrive loin derrière la cuisson du tendron de veau, la vidange de sa moto, oui, et ses places en carré or pour le prochain concert d'Eddie Mitchell. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Mathieu Noël.
Aujourd'hui,
cette musique est...
C'est pour vous. C'est pour vous. C'est, vous l'avez reconnu ou pas? Un peu de culture, un peu de culture. Un blind test.
J'ai un doute. Je la connais, mais...
Une comédie? Comédie d'un lieu que je connais bien.
Ah, Saint-Tropez, le gendarme.
Exactement, bien joué Cyril. Aujourd'hui, c'est un peu comme si Willy Schren devait nous expliquer l'origine du véganisme. Cyril, respirez un bon coup et dites-nous, le backlash, d'où ça sort?
C'est un concept que l'on doit à la journaliste et écrivaine Suzanne Faludi. En 1991, elle publie Backlash, The Undeclared War Against American Women, sorti 2 ans plus tard en France.
Elle n'a pas progressé en anglais.
Non, absolument pas.
Mais il n'y a pas eu de cours du soir, ni de.
Non.
Directement, on y va comme ça.
Et puis j'aime bien l'idée de cet accent français bien prononcé.
Ah, mais moi j'aime bien. Est-ce que nos auditeurs l'aiment? Ça, c'est une autre question.
Ils en raffolent, j'ai reçu des lettres.
Des lettres carrément,
des
fax.
Oui, des fax, bien sûr. Des pneumatiques. Ça, c'est votre époque.
Vraiment, Mathieu, des pneumatiques, là, vraiment, ça a perdu tout le monde.
Pourquoi?
Parce que personne n'envoie des pneus. Faites attention, on n'envoie pas des pneus type Michelin, type voiture. C'est autre chose. Définissez les pneumatiques, Mathieu Noël. Ça sort. D'où ça sort, les pneumatiques?
Il y avait un réseau dans Paris avec des pneumatiques. On envoyait des petits messages comme ça dans des petites bulles en plastique et pop, ça arrivait dans les bureaux. C'était les pneumatiques.
On s'égare.
Vous avez 100 ans.
Vous trouvez? Parce qu'on pourrait continuer cette émission.
Une tranche d'histoire. Je vous offre comme ça une tranche d'histoire et vous, vous essayez de m'humilier. C'est décevant, Cyril, mais continuez votre exposé.
Ce livre de Suzanne Faludi sort 2 ans plus tard en France sous le titre « La guerre froide contre les femmes ». Selon Suzanne Faludi, ce backlash est en fait un concept qui veut que chaque avancée pour le droit des femmes et des minorités serait immédiatement suivie d'un retour de bâton réactionnaire, le backlash. Dans son livre, l'auteur dénonce la manière dont les médias propagent l'idée que les mouvements féministes ont remporté la bataille des idées, gagné le droit à l'égalité et que cela s'est finalement retourné contre elles, manière de dire qu'elles ont eu tort de mener ces combats et qu'en fait, eh ben oui, c'était mieux avant. Ce livre est un événement, il fait date, mais il ne suffit pas à changer les mentalités. Car le retour de bâton des conservateurs est puissant. Regardez l'état de l'Amérique post-Trump, regardez le Brésil de Bolsonaro. Regardons même ici en France avec ce que raconte l'émergence de Zemmour dans le paysage politique après son émergence dans le débat public. Permettez-moi cette anecdote personnelle.
Oh oui. Je vous permets.
J'étais en Floride il y a 18 mois, en me baladant dans un bastion pro-Donald Trump.
On s'en met croisé... la Tanzanie, la Floride. Monsieur est rédacteur en chef, on voit tout de suite.
J'ai croisé un jeune homme blanc portant un t-shirt où il était écrit « Quand est-ce que ce sera mon tour d'être plein ?» Comme s'il était temps d'arrêter de se préoccuper des minorités et que lui aussi, un solide gaillard blanc, avait droit qu'on s'occupe de lui. Pour finir, le backlash, c'est aussi ça. I'm gonna leave you with a backlash blue. Quand j'essaye de trouver un emploi pour gagner un peu d'argent, tout ce que tu as à offrir, c'est votre vieux et méchant retour de bâton de blanc.
Backlash Blues de Nina Simone. Merci Cyril Lacarrière et merci surtout pour ces anecdotes personnelles. Amandine Claveau, ce livre de Suzanne Faludi, vous l'avez lu et en quoi est-ce qu'il a été déterminant pour théoriser les contre-coups conservateurs qui suivent toutes les avancées pour le droit des femmes et des minorités? C'est vraiment le livre tournant.
C'est le livre référence, tout à fait. En fait, il décrit précisément la stratégie des conservateurs, précisément ce qu'elle appelle en fait la nouvelle droite. Mmh. Donc composé du parti républicain, appuyé par des lobbies religieux assez puissants, notamment les évangélistes, mais aussi les catholiques. Et elle montre bien la stratégie déployée et cette bataille culturelle qu'ont remporté ces conservateurs et qui désigne en fait comme bouc émissaire le féminisme. Ils considèrent que le féminisme est responsable de tous les maux dans la société. Et en fait, ça intervient à une période qui est intéressante, donc dans les années 80-90, hein, c'est sous la présidence Reagan. Et ce qu'elle explique, c'est précisément en réalité, elle pointe en fait les remises en cause systématiques que le Parti des Républicains met en œuvre et notamment la structuration idéologique de la droite américaine sur cette question-là.
Ce que vous nous dites et qui est hyper intéressant et qu'on n'imagine pas peut-être à première vue, c'est que le backlash, c'est quelque chose de très organisé. C'est stratégie. Il y a une stratégie derrière. C'est pas du tout une réaction spontanée, en gros, des mecs un peu réacs qui se disent « Qu'est-ce que c'est que ces avancées ?» Il y a une stratégie, souvent appuyée sur des mouvements religieux.
Oui. Alors en fait, dans les années, justement, ce qu'elle dit dans les années 80-90, c'est en réaction en fait au mouvement de libération des femmes dans les années 70, parce que ce qu'on constate, c'est que les femmes sont entrées massivement dans le marché du travail. Mmh. Et donc là, la réaction des conservateurs, c'est justement de dire que finalement, les femmes deviennent autonomes économiquement et surtout, en fait, elles deviennent seules, voilà, et déprimées. Voilà, c'est ce qu'elle dit.
C'est
leur conclusion. Et ce que l'on voit là plus dernièrement, en fait, en termes d'actualité, c'est la stratégie que les conservateurs déploient dans les enceintes internationales. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment coordonnés. Là, ce que l'on peut voir, c'est par exemple, Cyril en parlait, le Brésil, mais aussi le Vatican, mais aussi les États-Unis sous la présidence de Trump, qui se réunissaient dans les enceintes de l'ONU pour contrer un certain nombre de résolutions au Conseil de sécurité. Hein, les États-Unis se sont opposés, par exemple, à une résolution contre les violences sexistes et sexuelles, mais on le retrouve aussi à la Commission de la condition de la femme de l'ONU, où ces États, en fait, refusent l'utilisation, par exemple, du mot « genre », refusent l'utilisation du mot « avortement ».
Mais tout ça, c'est fini avec Biden, non ?
Alors là, ce qui est intéressant, c'est que là, comme vous l'avez vu, il y a eu la révocation de l'arrêt Roe versus Wade, qui datait de 73, et donc qui empêche l'avortement des femmes américaines. Ça va concerner la moitié des Américaines aujourd'hui qui ne vont plus avoir accès à l'avortement. Là, les midterms, donc les élections de mi-mandat, vont être vraiment déterminantes. Et justement, Biden essaye de mobiliser son électorat démocrate pour que les femmes, mais aussi les hommes, aillent voter massivement pour donner une majorité démocrate et que justement, on puisse revenir sur cette révocation de l'arrêt Roe versus Wade.
Beaucoup
mais
de choses vont se jouer
mais c'est pas encore gagné. Hein.
Sur ces élections-là. À l'heure d'écouter un peu de musique dans Zoom Zoom Zen, je réalise avec une certaine amertume qu'il y a des gens qui sont nés avec des noms pas de stars, Noël, lui, et puis d'autres qui ont eu un peu plus de chance. Sans rancune, voici Johan Papa Constantino. Glace sur France Inter.
Comme si j'étais la glace, je reflète la cour et qu'elle met en place. Métal l'amande, tout ce qui la gâte. Y'a des échos sur elle, mais ça vole pas haut. Je pourrais pas vous dire ce qu'il se passe. Ces mouvements de psycho me dépassent. Elle m'emmène en bateau, fait boire la tasse. Laisse à la surface. Elle me regarde comme si j'étais la glace. Je reflète la cour et qu'elle met en place. Métal, l'amande, tout ce qui la gâte. Y'a des échos sur elle mais ça vole pas haut. Elle me regarde comme si j'étais la glace. Je reflète la cour et qu'elle met en place. Métal, l'amande, tout ce qui la gâte. Y'a des échos sur elle mais ça vole pas haut.
Inter, Zoom, Zoom, Zen.
Amandine Claveau, directrice de l'Observatoire Égalité Femmes-Hommes de la Fondation Jean Jaurès, nous accompagne cet après-midi pour décrypter ce mot que vous avez peut-être entendu dans l'actu, le backlash. Le backlash, c'est le retour de bâton conservateur qui survient après une phase progressiste. Alors que nous fêtons les 5 ans de MeToo, quel bilan, justement, Amandine, vous en tirez? Est-ce que vous diriez que MeToo est victime d'un backlash aujourd'hui aussi?
Alors, ce qui est intéressant d'observer, c'est que MeToo a été vraiment l'occasion d'une vraie prise de conscience dans la société des violences sexistes et sexuelles au niveau international. Ça s'est vraiment observé. Il y a vraiment eu un déferlement de témoignages à l'occasion de ce hashtag. Mais en parallèle de ça, ce qu'on constate 5 ans plus tard, c'est un certain nombre de résistances. Vous avez parlé de retour de bâton. On voit des oppositions assez vives aux États-Unis. On voit avec la révocation de l'arrêt Roe versus Wade. Mais on le voit en fait sous d'autres aspects également en Europe. Si on prend des élections, les dernières élections, en Suède par exemple, il y a la droite et l'extrême droite qui ont donc remporté le scrutin. Là, dernièrement, ils ont annoncé en fait le retrait du mot diplomatie féministe. Donc on voit bien les reculs qui sont en train d'être mis en œuvre. Mais aussi en Italie, l'élection de Giorgia Meloni, qui est donc cette première ministre d'extrême droite, anti-avortement. Là, il y a une proposition de loi pour réduire l'accès à l'IVG qui est déjà extrêmement, extrêmement restreint en Italie à cause de la clause de conscience que la majorité des médecins utilisent. Donc voilà, on voit qu'il y a un certain nombre de reculs, et idem en France, on peut se rappeler de la tribune sur la liberté d'importuner, ou encore un certain nombre d'éléments, et on en parlera peut-être, sur la question de la constitutionnalisation de l'IVG.
Tout à fait, on va en parler tout à l'heure. Manon Mariani.
D'ailleurs, en France, ce week-end, dans 7 à 8, il y a une interview d'Emmanuel Seignet, la femme de Roman Polanski, accusée de 12 viols ou d'agressions sexuelles, qui a dit ceci.
Toutes les femmes voulaient coucher avec lui. Toutes les jeunes filles voulaient coucher avec lui. C'était un truc de dingue. C'était fou, quoi. Et je pense qu'il avait besoin de violer personne, quoi.
Est-ce que pour vous, ce genre de propos, c'est aussi un symbole de ce backlash ?
Alors, ce qui est symptomatique, en fait, c'est la médiatisation qu'on donne à la fois aux auteurs, aux personnes mises en cause pour faits de violences sexistes et sexuelles, mais aussi d'une parole anti-féministe, misogyne, sexiste, qui se retrouve de manière très virulente aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ce qu'on peut voir, c'est qu'un certain nombre de femmes engagées sur ces questions-là, féministes, on a parlé tout à l'heure de Sandrine Rousseau, mais il y en a bien d'autres, sont fortement attaquées sur les réseaux sociaux, sont cyberharcelés, voire même en arrivent à fermer leurs comptes, donc en fait à réduire leurs propres paroles et à ne plus parler sur l'espace public. Et donc ça, c'est un vrai sujet. Et l'autre sujet, c'est la mise en doute de la parole des victimes. Et ça, c'est le travail des associations féministes qu'elles ont porté depuis un certain nombre d'années, et notamment qui a permis l'émergence de MeToo, c'est de porter cette parole des victimes, de les croire, et ne pas opposer avec la présomption d'innocence. La présomption d'innocence n'est pas mise en doute. En revanche, il faut écouter la parole des victimes.
Quentin, lui.
Est-ce que vous parliez à l'instant des élections ailleurs, en Suède, en Hongrie, en Italie dernièrement, et des décisions politiques qui pourraient en découler, qui en découlent déjà en Suède? On a l'impression que ça ne peut pas arriver en France. On a l'impression que ça n'arrivera jamais. Ça me rappelle le Covid, où on voyait les frontières et se rapprocher. On se dit non. Est-ce qu'en France, ça peut arriver?
Alors la France n'est absolument pas à l'abri de régression, ça c'est évident. Il faut savoir que si on regarde l'histoire des féminismes, ça a toujours été ponctué, jalonné d'avancées, de reculs. Les mobilisations féministes ont toujours suscité des oppositions, et la France n'est absolument pas à l'abri sur la question de l'IVG, notamment. Sur la question de l'IVG, aujourd'hui il y a 89 députés du Rassemblement National qui sont présents, et dont notamment certains ont porté des déclarations très anti-IVG, considère que c'est un génocide de masse. Donc voilà. Et peut-être qu'on va en parler peut-être un peu plus en détail, mais au Sénat, ce mercredi, il y a eu la proposition de loi de Mélanie Vogel sur la constitutionnalisation de l'IVG. La première des oppositions qu'on a constatée au Sénat, eh bien, c'est le sénateur du Rassemblement National, qui est maintenant zémoriste, Stéphane Ravier, qui s'est opposé à ce texte. Donc on voit bien, et c'est en fait la raison pour laquelle on souhaite constitutionnaliser, quand je dis on, c'est à la fois les femmes, mais l'ensemble de la population française, qui y est favorable à 81%, c'est en réalité, on voit bien qu'un changement de majorité et un changement de pouvoir montrerait bien les risques qui pourraient peser sur les droits des femmes.
Si on résume le problème du backlash, comment on peut lutter contre? Si on caricature, il ne faudrait pas d'avancée pour qu'il n'y ait pas de retour de bâton. Ça serait l'immobilisme, ce n'est pas possible. Il faut toujours qu'il y ait des avancées. Si on a l'impression que chaque avancée débouche sur une contre-attaque, on ne s'en sort pas.
Alors, l'histoire des mouvements sociaux montre bien que toutes les avancées ont une part de radicalisme, de radicalité, c'est-à-dire sont des revendications pour aller vers plus d'égalité, d'émancipation, et suscitent là aussi toujours des oppositions. Mais l'opposition ne veut pas dire absence de débat. Donc l'idée du backlash, c'est pas de dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'opposition. En revanche, ces oppositions, elles sont extrêmement structurées et elles souhaitent revenir sur ces avancées. Donc c'est ça la question et la mobilisation des associations féministes porte précisément là-dessus. Et si on remonte dans l'histoire, en fait, à la Révolution française, les femmes se réunissaient dans des clubs, elles pouvaient se réunir, et il y a eu tout de suite, au moment de la Terreur, un retour.
C'est le premier backlash.
Enfin, c'est l'un des premiers backlash, tout à fait.
Lui, Amandine Claveau, il est l'antithèse de cet immobilisme que je dénonçais. Surtout quand il tape le devin en bout de ligne droite au Mans sur sa Kawasaki Hayabusa, poil au vent, parfaitement moulé dans sa combarde. Mais Quentin, lui, n'est pas que ce pilote qui manque au monde de la MotoGP. C'est vrai, vous manquez, j'ai eu Valentino Rossi.
C'est
aussi un journaliste de terrain. Chaque après-midi, Quentin, vous demandez aux passants ce que leur inspire notre mot du jour. Alors, est-ce que ça fait réagir dans la rue ce qu'on appelle le backlash?
Alors, c'est encore un anglicisme dans Zoom Zoom Zen. L'occasion pour moi de saluer toute la communauté des profs de français à la retraite qui nous écoutent et qui restent très patients. Il reste à peu près 34 minutes. Allez, je commence avec cette femme qui traverse la rue devant moi et que je rattrape. Elle porte un gilet noir et long, des lunettes remontées dans les cheveux, un sac en cuir marron sur le côté. Bonjour.
Bonjour.
Quel est votre prénom?
Christine.
Christine, vous avez quel âge?
53 ans.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous?
Je suis dans l'immobilier. Chasseur d'appartements.
Chasseur d'appartements. Ça marche bien? La chasse est bonne?
Ça va.
Oh, petit ça va. La crise est partout, Mathieu.
Ah, oui.
Christine se penche cependant sur le thème du jour.
Bah justement, ce retour à ce populisme, tout ce qu'on voit aux États-Unis, mais qu'on voit aussi chez nous, enfin un peu partout, même dans les pays un peu d'Europe de l'Est, la Hongrie notamment, tout ce retour à les lois anti-avortement, enfin tout ça, c'est terrible. Parce que là, vous parlez en fait des droits des femmes, mais c'est plus vaste que ça en fait. C'est un retour à plein de choses, tout ce qui était le mariage pour tous, des manifs, les manifs mariage pour tous, qui c'était terrible quoi.
En entendant Christine, Tania s'approche de moi, elle a 24 ans et elle veut réagir. Elle est un peu plus jeune. Et évidemment, sur ce point, est-ce qu'elle voit au quotidien, mais elle se veut quand même optimiste.
Il y a du racisme en France et de la misogynie et du sexisme et la transphobie, enfin bon, et j'en passe. Je vois ça tous les jours et ça me fait très peur. Maintenant, j'ai aussi l'impression que la jeune génération, vraiment les 16, 20 ans, tu vois, ils sont présents, quoi. Ils sont là, ils sont là pour prendre le relais. Parce qu'ils maîtrisent les codes des réseaux sociaux, parce qu'elles maîtrisent la communication, la parole, tu vois. Et ça, c'est des choses que finalement les vieux réacs et les vieilles réacs, parce qu'il n'y a pas tant de jeunes que ça, tu vois, dans ces mouvements-là, ne peuvent pas forcément maîtriser.
Ah, c'est là que ça commence. Petit rappel qui me semble nécessaire. Un tiers des 18-24 ans a voté Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise et presque autant pour Marine Le Pen aux dernières élections présidentielles au premier tour. Je marche quelques mètres et se présente devant moi un homme, costume trois pièces, cravate verte, cheveux blancs tirés en arrière, lunettes de soleil italienne, un cigare barreau de chaise entre les doigts. Pour ceux qui connaissent...
Ça existe, ça, mais où vous rencontrez ces gens?
Pour ceux qui connaissent, physiquement, c'est Enzo Ferrari.
Oh non! Oh,
magnifique. Bonjour.
Bonjour.
Quel est votre prénom?
Charles.
Charles, vous avez quel âge, Charles?
Ah, j'ai 90 ans. Oh. Je remercie le ciel tous les jours d'avoir la tête et les jambes et de travailler.
Vous faites quoi dans la vie?
Je suis avocat.
C'est parti pour le...
backlash. Quand il y a une avancée d'une idée, il y a en même temps une avancée des opposants. Je dirais c'est la dialectique universelle.
Et alors qu'est-ce qu'il en pense, lui, l'homme de 90 ans? Qu'est-ce qu'il pense de ces mouvements progressistes, des droits des femmes qui progressent, ou même du wokisme?
Mais le wokisme, c'est un courant de destruction des structures sociales et politiques dans lesquelles nous vivons. Je suis anti-wokisme.
Anti-wokisme, mais en revanche, Charles m'assure qu'il est, par exemple, tout à fait favorable à l'égalité homme-femme, notamment sur l'écart des salaires, qu'il trouve aberrant, mais... car il y a un mais, vous l'avez vu venir.
Je vais vous dire, il y a un côté excessif dans ce qu'on fait pour les femmes en ce moment. Ce qui est choquant aujourd'hui pour un avocat, qui est l'inversement de la charge de la preuve. Aujourd'hui, si vous prenez l'ascenseur dans votre immeuble
et que dans l'ascenseur, il y a votre voisine de l'étage au-dessus, et qu'elle va au commissariat en disant que vous lui avez mis les mains sur les fesses, c'est vous qui aurez des ennuis avant toute preuve, que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai.
Alors, les propos de Charles font-ils partie de ce qu'on nomme le backlash, eux enfin pour mes amis profs de français, du retour de bâton? Paf!
Très joli paf. Zoom sur le backlash aujourd'hui dans Zoom Zoom Zen avec vous, Amandine Claveau, directrice, je le rappelle, de l'Observatoire Égalité Femmes-Hommes de la Fondation Jean Jaurès. On vient d'entendre plusieurs voix arrêtées donc au hasard dans la rue. Charles, 90 ans, est un bon exemple du backlash ou pas vraiment? Parce qu'en fait, il est d'une génération qui est, sans lui faire insulte, tellement ancienne que finalement, il est peut-être plus concerné par ce qu'on appelle le backlash. Il y a un autre truc qui m'a intéressé dans ce micro-trottoir, c'est cette jeune qui était très optimiste et qui pensait que notre génération, pas la mienne, la génération après, des ceux qui ont 20 ans aujourd'hui en gros, ne seraient plus concernés, sensibles à ça ou susceptibles de tomber dans le backlash parce qu'ils sont plus ouverts d'esprit. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des jeunes réacs?
Alors, pour ce qui est de Charles, c'est un conservateur pur jus, j'ai envie de dire. Justement, parce qu'il évoque des termes wokisme, c'est comme invoquer le néo-féminisme, en fait. Aujourd'hui, c'est un peu des mots épouvantail pour discréditer la parole des féministes. Et sur la partie de la jeunesse, nous, on a fait un certain nombre d'études à la Fondation Jean Jaurès, et je vais être optimiste pour une fois.
Ah oui.
Et j'ai envie de l'être. Un certain nombre de chiffres montrent que un Français sur deux considère qu'on n'est pas allé assez loin pour promouvoir les droits des femmes. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et sur la jeunesse, alors vous avez raison, il y a une partie très importante de la jeunesse qui vote pour l'extrême droite, et ça, il ne faut pas l'évacuer, il faut le traiter. Mais le second élément, c'est que sur cette nouvelle génération, il y a 86% des jeunes femmes de 18-25 ans qui ont considéré sur leur vote au premier tour de l'élection présidentielle que le genre était structurant et a été vraiment un choix important pour elles. Donc ça, c'est quand même un élément aussi à prendre en compte.
Est-ce que, globalement, le cœur de notre discussion sur le backlash, c'est pas que, du côté des milieux conservateurs, il y a cette idée que le progrès avance tout seul, quelque part, et qu'il n'y a pas besoin d'en faire des caisses, et qu'il n'y a pas besoin de se battre pour que, par exemple, le droit des femmes ou des minorités avance. Les conservateurs, leur position, c'est de dire, ou de penser que le progrès arrive comme ça, naturellement. Ce qui n'est pas le cas, c'est ça qu'il faut rappeler.
Alors, ben oui, pour les conservateurs, c'est le statu quo, alors que le progrès, c'est du mouvement. Et surtout, en fait, ce qu'ils défendent, c'est une vision patriarcale de la société, où en fait, ils défendent une vision assez traditionnaliste de la famille, où les femmes et les hommes ont un rôle qui leur est assigné, et qui doivent correspondre à des stéréotypes de genre.
Quentin, lui.
On entendait Christine qui nous parlait aussi. C'est marrant parce que ce qui lui est venu à elle, c'est la manif pour tous. Et est-ce que c'était du backlash ?
Alors ça correspond tout à fait à du backlash. En fait, quand on parle du backlash, on peut aussi englober l'ensemble des droits humains et notamment la question des droits LGBTI+, évidemment. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu une vivacité de ce mouvement-là en 2013 à l'occasion de la loi pour le mariage pour tous. Et en fait, on voit en fait ce même décalage entre cette minorité qui arrive à faire du bruit et qui n'est pas en phase avec l'évolution de la société. Et sur l'avortement aux États-Unis, c'est exactement la même chose. Près de 60% des Américains sont favorables au droit à l'avortement. Et en réalité, ils sont en fait pris en otage par une minorité conservatrice. Et sur les droits des personnes LGBTI, on voit aussi des reculs en Europe. Et je pense notamment à la Pologne et à la Hongrie, où il y a vraiment des atteintes aux droits humains très importantes et sur lesquelles il faut que la Commission européenne se positionne plus fortement.
Manon Mariani.
On voit aussi que le backlash envahit la culture avec, par exemple, on a vu les commentaires racistes sur la petite sirène noire, aussi sur la série Le Seigneur des Anneaux avec des commentaires sexistes, misogynes, racistes. Du coup, le backlash envahit vraiment tous les domaines, même la culture.
Bah, c'est ce que Suzanne Faludi disait, en fait. C'est qu'il y a vraiment une bataille culturelle de ces acteurs, donc qui se retrouvent dans le champ politique, qui se retrouvent dans le champ religieux. Il faut savoir que ce sont des organisations, en fait, qui ont des moyens financiers assez importants, qui se retrouvent dans les instances internationales. C'est ce que j'évoquais, tout à l'heure.
C'est des lobbies, finalement.
Absolument. Ce sont des lobbies qui investissent beaucoup plus massivement ces instances internationales pour peser d'un point de vue en termes termes de politique publique, en termes de textes internationaux. Et donc ça, c'est absolument pas à négliger. Ils investissent aussi massivement les réseaux sociaux.
Oui,
sur la question du droit à l'avortement, on sait très bien qu'ils usent des réseaux sociaux et d'Internet pour diffuser et diffuser de mauvaises informations. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de champs sur lesquels il faut travailler pour lutter contre cette désinformation.
On continue à parler du backlash dans Zoom Zoom Zen avec notre invitée Amandine Claveau, directrice de l'Observatoire Égalité Femmes-Hommes de la Fondation Jean Jaurès, juste après un interlude musical de qualité. Comme je sais que vous aimez Gorillaz, mais aussi Tame Impala et Beauty Brown, je me suis dit, on va gagner du temps, je vais vous mettre les trois d'un coup. New Gold sur Inter. But
to the hills cause the end is near.
Spécial Backlash continue avec notre invitée Amandine Claveau, directrice de l'Observatoire Égalité Hommes-Femmes de la Fondation Jean Jaurès. On analyse ce phénomène de retour de bâton réactionnaire après une avancée progressiste. Ça tombe assez bien. Ici, les retours de bâton, certains connaissent. Notamment Quentin, quand une fois, par hasard, sur un malentendu ou parce que je lui offre la victoire en cadeau d'anniversaire, il remporte le quiz et que le lendemain, Manon le lamine sans pitié. Le Backlash ici, c'est tous les jours quand vient l'heure du Zoom Zoom Test. Un test consacré aujourd'hui, Backlash oblige, aux plus belles vengeances de l'histoire. Il va y avoir du retour de bâton. La vengeance est un ressort qu'on retrouve partout dans la fiction, dans les meilleurs films de Tarantino, jusqu'aux plus mauvais films de Chuck Norris, dans lesquels la ficelle est parfois un peu grosse, diront les puristes de Télérama.
Ramon a d'abord tué son mari, puis il a assassiné son bébé. Et dans le corps de l'enfant, il a passé des kilos de cocaïne, et il a violé la fille. Alors c'est peut-être pas nécessaire de lui en parler, quand vous la verrez. C'est une jeune femme très sensible.
Extrêmement sensible, comme Chuck Norris. Si certaines histoires de vengeance sont de pure fiction, d'autres appartiennent à l'histoire. Avec un grand H, Manon Quentin, attention, top. Qui a écrit Le Comte de Monte-Cristo ?
Alexandre Dumas.
Cette question, trop basique, ne rapporte pas de points.
Ah bah super.
Non, non. Nous sommes, quand même sur France Inter, essayez de vous respecter un peu. Non, ma question est la suivante. Qui a inspiré à Dumas le personnage de Monte-Cristo ? Un certain Pierre Picot ? Pierre Claquette ou Pierre Claquette à Picot Le personnage de Monte-Cristo a existé.
Oui, mais alors, il venait, c'était un coursier qui venait chez lui. J'ai l'histoire dans la tête et j'ai pas le nom. Redites-moi les noms.
C'était un coursier qui venait chez
lui. Oui, il y a une histoire avec ça.
Le comte de Monte-Cristo.
Oui, il y a un truc avec ça.
Il a vu coursier, il s'est dit à lui,
ça, à coursier à lui
je vais faire une bonne histoire.
Pas un truc,
c'était un livreur Deliveroo. Je vous donne une piste. Non, pas du tout. Essayez de vous ressaisir et dites-moi son nom. Pierre Picot, Pierre Claquette, Pierre Claquette à Picot.
Bah, Pierre Claquette à Picot.
La A,
Pierre Claquette à Picot. Amandine et notre invitée est consternée. Elle pensait venir sur France Inter. Elle pense que c'est un piège, que c'est un guet-apens.
Je suis sûre que j'ai bon.
Amandine, quelle est la bonne réponse ?
La première que vous avez citée.
Évidemment, Pierre Picot, bande de nouilles !
J'ai dit, mais bon, après.
En 1807.
Ça va pas compter encore.
En 1807, alors qu'il s'apprête à se marier, Pierre Picot est arrêté et envoyé en prison pendant 7 ans. La raison ? Des amis jaloux, dont un qui voulait récupérer la dot de la future mariée, l'avait dénoncé aux autorités en prétendant qu'il était un espion à la solde des Anglais. Ce qui ne tenait pas la route, sachant que des tests réalisés par la suite démontrèrent qu'il avait en anglais le même niveau que Cyril Lacarrière.
Where is Big Moustache ? I don't understand.
Picot met au point sa vengeance pendant près de 10 ans et parvient à tuer 3 des 4 félons. L'un est poignardé, l'autre empoisonné, le troisième ruiné. Et ça ne finit pas, hélas, comme dans un Tarantino, puisque le dernier traître se rebelle et le malheureux Picot finit poignardé à son tour. Preuve, s'il en fallait une, que la vengeance ne paye pas. Sauf évidemment quand je diffuse un extrait de la performance de Quentin dans l'autopromo de la honte, quand il a osé me vanner sur mes cheveux.
Je me sens pas super bien en ce moment, c'est une migraine, je pense.
Attention, monsieur le comédien. Top. Ces derniers temps, qui n'a pas eu envie, après avoir reçu un 72e coup de fil concernant nos droits à la formation CPF, de retrouver le type au bout du téléphone, de lui faire une clé de bras, avant de se saisir d'un fer à repasser et de lui coller sur l'oreille comme Roland Giraud à Gérard Jugnot dans Papy fait de la résistance. D'après vous, quelle vengeance sournoise et brillante a mis en place un Anglais répondant au nom de Roger Anderson ? Il a inventé une appli qui retrouve l'identité des personnes en reconnaissance vocale, comme ça on peut les choper avec le fer à repasser. Il a inventé une appli qui transforme votre voix de sorte à ce qu'elle fasse vraiment peur.
Un peu comme ça.
Oh là, génial.
La qualité des effets spéciaux.
Vraiment bravo, Gislain.
Ou c'est une appli qui rend fou le démarcheur téléphonique, une voix préenregistrée de petit vieux, par exemple votre Charles, qui répond avec des phrases interminables et pleines de digressions qui fait perdre ton
fils.
C'est une bonne réponse.
Elle a répondu avant la fin.
Victoire de Quentin, lui, oui. Parce qu'il n'en pouvait plus de se faire démarcher, Roger Anderson a eu cette idée un jour, une sorte de faux répondeur sur lequel on bascule automatiquement lorsqu'on est dérangé par un démarchage commercial. Et là, c'est le début d'un long chemin de croix pour le téléopérateur qui a l'impression de parler à un vieux à la ramasse, alors qu'en fait, c'est un programme qui lui parle. Ça donne
génial.
Ça.
Good. I mean, you have been very patient with an old man.
Yeah,
and
it's
yes, sir.
Yeah, I mean, it's something that I've been told that I should be looking at.
Voilà, il est impossible à couper et ça dure pendant 12 heures, ce qui fait que le téléopérateur, s'il veut être bon, il essaye de raccrocher les wagons, mais il n'y arrive pas. C'est une victoire sublime de Quentin Lhuy. Vous m'avez déçu, Manon.
Non, mais j'applaudis pas du tout cette
victoire. Je sens que Amandine, vous m'avez déçu aussi.
Si, je l'applaudis toujours. Oui. Je suis bonne joueuse.
Oui. Non, c'est pas. Une avancée suivie d'un violent retour de bâton, c'est le phénomène du backlash qu'on étudie aujourd'hui avec notre invitée Amandine Claveau. Dans votre livre, Amandine, vous parlez des effets de la crise sanitaire sur les droits des femmes et la régression que ça a entraîné, notamment dans certains pays conservateurs. On l'a évoqué tout à l'heure assez rapidement. Vous mentionnez la Pologne, la Hongrie et les risques qui se profilent avec l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir en Italie. Quels droits sont en première ligne de ce backlash ? À quoi il faut faire très attention ?
Alors, l'un des points d'entrée des conservateurs, c'est le contrôle du corps des femmes. Et c'est précisément sur la question des droits et santé sexuelle et reproductive, donc l'accès à la contraception, droit à l'IVG, sur lesquels ils souhaitent intervenir. Et donc, effectivement, la crise sanitaire a été instrumentalisée pour réduire l'accès à l'avortement. L'IVG, en fait, a été considéré comme des interventions non essentielles dans un certain nombre d'États. La Pologne a réussi en janvier 2021, mais ces projets de loi ont été passés durant la crise sanitaire, donc au moment des confinements. Et d'ailleurs, la mobilisation des femmes a été très forte. Elles manifestaient dans leur balcon ou dans leur voiture. Donc voilà, il y a eu un certain nombre d'autres États aussi qui ont fait de même. La Slovaquie, il y a une dizaine de projets de loi qui ont été proposés pour réduire l'accès à l'IVG. Là, en Hongrie, dernièrement, là, en fait, il y a un décret qui est passé et qui va obliger les femmes à écouter les battements du fœtus des femmes qui souhaitent avorter. Ouais. Voilà.
Pour les décourager, en se disant,
exactement,
en les émouvoir.
Exactement. Mais on voit aussi d'autres effets dans d'autres États. La Lituanie, par exemple, le ministre de la Santé a déclaré durant les confinements que justement, ça pouvait être un moment pour les femmes de reconsidérer leur choix d'avorter.
Bah oui, voilà. Vraiment. Bien sûr. Bien vu. Quentin.
Simone de Beauvoir nous a donné cette phrase désormais célèbre. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante votre vie durant. Honnêtement, si on regarde le monde tel qu'il est en 2022 et les crises qui s'enchaînent, sanitaires, budgétaires et là, même énergétiques, il y a de quoi s'inquiéter, non ?
Il y a de quoi s'inquiéter de manière assez, assez vive, et les associations féministes sont sur le terrain et travaillent là-dessus pour justement mobiliser. C'est le cas sur la question de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Si on regarde par exemple la Russie, en 2017, ils ont passé une loi pour réduire les condamnations des auteurs de violences sexistes et sexuelles, de violences conjugales. Donc voilà, ça c'est un des exemples, mais il y a un certain nombre d'États aussi qui se sont désengagés de textes internationaux sur la question de la lutte contre les violences conjugales. Donc ça, ce sont des éléments d'inquiétude. Le droit à l'avortement aussi, on en a parlé, notamment là, en France, aujourd'hui, il y a des débats très forts pour la constitutionnalisation de l'IVG.
Et ça, pardon de vous couper, mais c'est vrai que la constitutionnalisation de l'IVG, quand on est justement progressiste, on peut être tenté de se dire, paradoxalement, ça presse pas en France, on est à l'abri de tout ça, évidemment que l'IVG sera toujours... Par rapport à ce qu'on se dit aujourd'hui, si on voit le backlash, qu'on est menacé par le backlash de tous côtés, même au sein de l'Europe, ça prend une autre dimension. On se dit peut-être qu'il faudrait peut-être le constitutionnaliser assez vite pour éviter tout backlash. On ne sait pas ce qui peut se passer.
Tout à fait, parce qu'on voit bien l'effet domino en fait, qu'il peut y avoir suite au signal qu'ont envoyé les États-Unis ou d'autres États. Et donc, il faut constitutionnaliser le droit à l'IVG pour la simple et bonne raison qu'on n'est pas à l'abri de changements de majorité au sein du gouvernement. Et les droits des femmes, ils sont jamais acquis, en fait, ils sont réversibles. Et donc là, il y a une bataille qui est en train de s'engager. Ce mercredi, le Sénat a rejeté à 17 voix cette proposition qui a été portée par Mélanie Vogel. Elle va passer à l'Assemblée nationale, elle va être proposée à la fois par la majorité actuelle et par LFI. Et donc, il faut avancer sur ce sujet-là. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est un projet de loi, c'est-à-dire que ce soit porté par le gouvernement pour éviter que nous passions par un référendum. Et donc, voilà, il faut que ce soit porté par le gouvernement pour aboutir à ça et offrir des garanties juridiques beaucoup plus fortes pour les femmes et les protéger.
Vous écoutez France Inter et vous êtes bien dans Zoom Zoom Zen. Dans quelques instants, un autre point de vue sur le backlash, celui de Pierre Thévenoud, dont on espère qu'il sera aussi gratiné que son avis sur le chemsex l'autre jour. Mais avant ça, si nous évoquions ce qui fera l'actualité demain, comment ? Mais avec la Madame Soleil de la génération Y, une sorte d'Elisabeth Tessier qui aurait remplacé Mitterrand par le batteur de Requin Chagrin. Qu'on salue au passage. Manon. Bonjour. Mariani, chaque après-midi, grâce à votre veille sanitaire sur les réseaux, vous êtes en mesure quasiment de lire l'avenir. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, vous nous parlez d'applications bienveillantes.
Parce que contrairement aux apparences, Mathieu, ça existe. Et c'est le cas d'une appli qui fait un carton aux États-Unis. Elle est désormais la plus téléchargée du pays dans la catégorie réseaux sociaux. Un exploit alors qu'elle n'est même pas disponible dans tous les États du pays. Alors cette appli s'appelle GAS, G-A-S, une référence à l'expression américaine GAS each other up, en traduction, se
se faire mutuellement des compliments. Son principe, prendre le contre-pied de tous les autres réseaux sociaux. La cible de Gas est précise, les lycéens. L'appli permet à ses utilisateurs de se créer un compte et d'identifier le lycée auquel ils appartiennent. À partir de là, chacun pourra répondre à des questions de façon anonyme en décernant des palmes, le tout reposant sur des compliments. Je m'explique, sur Gas, les élèves doivent répondre à des questionnaires bienveillants en votant pour leurs camarades. Les questions vont de la plus belle personne que j'ai jamais rencontrée à qui j'admire secrètement. Celui ou celle qui remporte le sondage gagne des petites flammes et de la monnaie virtuelle qu'il peut dépenser sur l'application.
On devrait faire ça dans l'équipe.
Vaut mieux pas.
Ah non.
Il gagne aussi du coup de la monnaie qu'il peut dépenser sur l'appli pour voir qui a voté pour elle ou pour lui. Alors pour la créatrice de l'application, le but est très simple, booster la confiance en soi et l'estime de la nouvelle génération. Et ça semble plutôt bien fonctionner car l'appli n'est sortie qu'en août dernier et elle est déjà un succès chez la Gen Z. Sans doute une preuve, si on en manquait, hein, que les jeunes en ont marre des réseaux où le pire est souvent mis en avant et qui heurte hein, de plus en plus, leur santé mentale, que ce soit TikTok, Instagram ou Snapchat. Les applis sont trop souvent la cause de dépression chez les jeunes. Je vous ai déjà parlé des problèmes de harcèlement scolaire via ces plateformes. Gas essaie de contrer ça et ne propose d'ailleurs pas de messagerie instantanée sur son application pour éviter toute forme de harcèlement.
Mais ça, vous savez ce que ça me rappelle ? Ça me rappelle le phénomène Be Real,
oui.
Cette appli dont on a parlé l'autre jour.
Évidemment, Be Real, l'application française vendue comme l'anti-Instagram qui marche aussi très très bien. Elle fait aussi partie de ces nouvelles applications bienveillantes dont le but est juste de partager une photo en temps réel avec ses amis sans filtre et sans like. Be Real a déjà été téléchargé plus de 50 millions de fois. Alors, les boss de la tech comme Meta sont donc concurrencés par de nouvelles applications créées loin du business de la Silicon Valley et qui renouvellent le genre. Mark Zuckerberg avait d'ailleurs senti le filon en 2017 puisqu'il avait racheté l'application TBH, To Be Honest, calquée sur le modèle de Gas en prenant l'anonymat positif. À l'époque, elle cartonnait aussi, sauf que Facebook l'a a totalement laissé de côté avant de la fermer car elle ne rapportait pas assez. Hein, voilà, au lieu de la faire prospérer, Zuckerberg avait en fait tout simplement utilisé la puissance de Facebook pour tuer un concurrent.
Oh, c'est vilain ça.
Oui, très vilain. Et puis ce type d'appli est une réponse au fléau des applications de gossip qui cartonnent auprès des lycéens où il est possible de diffuser des rumeurs sur ses camarades tel un épisode de Gossip Girl, la série. Si ces applis ont pour la plupart été fermées car elles incitaient à pratiquer le harcèlement, les lycéens ont trouvé des alternatives comme sur Instagram par exemple où de plus en plus de comptes sont créés uniquement pour propager des rumeurs. S'ils ne sont pas signalés rapidement, ces comptes peuvent vite se révéler dangereux car les anonymes qui se cachent derrière deviennent vite des harceleurs qui s'en prennent à la sexualité, au physique ou même au handicap d'un élève. Donc le fait que ces nouvelles applications bienveillantes deviennent de plus en plus populaires est donc une bonne nouvelle et c'est même rassurant sur l'état d'esprit d'une partie de la génération Z. Attention quand même à ce que cela ne se transforme pas en une course en compliments qui finirait par créer des rivalités entre les jeunes. Hein ?
Oui, non, ça risque pas. Je pense. Vous pensez que c'est un
risque ? Bah, faut faire attention quand même.
D'accord.
Parce que c'est après, t'as voté pour moi, j'ai pas voté pour toi.
Mais l'être humain, l'être humain est horrible. Je pense que les gossips marchent mieux que les gars.
Ce qui est bien, Quentin, c'est que tout à l'heure, notre invitée Amandine Claveau nous a dit qu'elle était arrivée ici pleine d'optimisme. Elle va partir d'Inter, écœurée par le monde tel qu'il va.
Hein. Les gossips marchent mieux que les compliments.
Mais oui, ça marchera toujours mieux, évidemment. Alors, merci Manon Mariani pour cette chronique. Je sais maintenant comment vous faire plaisir musicalement. Hélas, je ne peux pas diffuser deux fois Requin Chagrin la même semaine. Voici donc Kelly Trick Me sur France Inter. Freedom to us has always been a trick.
Zoom Zen sur France Inter.
Alors, je ne sais pas si sa chronique sur le chemsex a été beaucoup likée par la Fondation Jean Jaurès. Je vous invite à la visionner, chère Amandine Claveau. Gageons que celle du jour sur le backlash devrait avoir son petit écho aussi. Bonjour Pierre Thévenoud.
Ouais, bonjour. C'est parti pour le comique. Alors, encore un sujet qui va cartonner. On vise le buzz. Cette semaine, on parle droit des femmes et des minorités. Et une fois de plus, quoi de mieux qu'un homme blanc du Poitou-Charentes pour donner son avis là-dessus. Encore un très bon casting, bien joué, bien joué. Tant qu'on y est, semaine prochaine, si tu veux, je te fais une chronique sur les douleurs pendant les règles. Il n'y a pas de soucis, Mathieu.
Ça va bien. Le postpartum, tout ça aussi.
Donc aujourd'hui, on parle de backlash, si j'ai bien compris. Ça veut dire que s'il y a des avancées, par exemple, pour les droits des femmes, derrière, ça va reculer. Hein. En gros, c'est qu'à un moment, il y a les hommes blancs. Donc ma team, hein, je suis toujours dans les bons coups. À un moment, ils ont dit, quand même, les bonnes femmes, là, elles commencent à un peu trop prendre la confiance. On va leur mettre un petit coup de taser dans leurs acquis. Qu'elles croient pas non plus que c'est trop la fête. C'est ça l'idée, quoi. Ça concerne aussi les minorités, parce qu'il y a des gens, de ma team aussi, en général, quand ils voient que les droits des minorités s'améliorent, ils se disent, ah bah non, déjà, moi, je galère à trouver un appart. Faudrait pas non plus que le noir là-bas, il en trouve un avant moi, quoi. Je résume le truc, hein, je fais comme je peux. Et là, il y a des auditeurs qui se disent, oula, lui, avec un sujet comme ça, c'est sûr, il va dire de la merde. Parce que je sais que quand on me voit, on se dit un peu, tiens, ça sent le gros Jackie.
Non,
il doit avoir un aileron sur son scénique et un tatouage tribal sur le mollet. Le tribal sur le mollet, c'est le niveau au-dessus. Parce que sur l'épaule, passe encore. Mais le tribal sur le mollet, il y a ce côté fierté de l'exposer à la vue de tous quand tu te balades en Bermuda dans les rues de Palavas-les-Flots. Symboliquement, c'est très fort. Alors, mon avis sur les droits des femmes et des minorités. Eh ben, mon avis, c'est moi, c'est que je la ferme et je soutiens. C'est tout. Voilà. Non, mais si un jour les hommes blancs sont oppressés, on verra. Mais là, tranquille, je soutiens. Même s'il y a des trucs qui me saoulent, hein. Genre, le truc écriture inclusive. Tu sais, où tu dis plus il ou elle, tu dis yel. Je comprends le combat. Mais moi, d'un point de vue purement professionnel, ça me nique le business. Parce que déjà, qu'avec le français classique, j'y galère à les écrire, les chroniques. Là, si vous rajoutez des pièges, c'est un escape game, le truc. Moi, je vais jamais m'en sortir. Mais c'est pas grave, hein, j'ai un plan B. Si je galère trop, j'irai faire des micro-trottoirs avec Quentin et Maurice. On va s'éclater, quoi. Non, mais je fais attention quand même. J'essaie de m'auto-analyser assez régulièrement parce que j'ai peur de devenir un vieux con. Et je sens que j'ai un peu de ça en moi, tu vois. Bourré, je peux te lâcher un petit c'était mieux avant. Je peux. J'ai que 33 ans, je sais pas comment c'était avant, mais je peux le lâcher quand même, quoi. Donc ma technique, que je vous conseille aussi si vous avez des doutes, pour voir si je vrille pas trop, une fois par mois, je me mate l'émission de Pascal Praud en entier. Et si un jour je dis, bah il dit pas que des conneries Pascal, alerte, je suis en train de vriller. Ça peut arriver, hein. Il y a un truc où en vieillissant, tu changes un peu, quoi. C'est pas homme-femme, je sais pas, tout le monde sait, mais je sais pas à quel moment ça se joue, mais t'es là, t'es jeune, t'es un peu fougueux, ouais, l'égalité pour tout le monde, la répartition des richesses, rien. Puis tu vieillis, tu lâches des petits, ils font chier quand même les SNCF, ils foutent rien, ils sont tout le temps en grève, puis tu remplis les impôts, et il va où mon argent, là, pour payer les gars de la SNCF qui foutent rien? Donc je me surveille, et merci beaucoup. Fin de chronique, j'espère que j'ai pas dit trop de conneries. De toute façon, je le saurai demain matin en ouvrant Twitter. Bonne journée tout le monde.
Merci beaucoup Pierre Thévenoud, on vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen, enfin en fonction des résultats sur Twitter évidemment. Ainsi s'achève notre émission sur le phénomène du backlash. Merci beaucoup Amandine Claveau de nous avoir éclairé sur le sujet. Je crois qu'un rapport est en vue sur le backlash.
Oui, on va sortir un rapport sur le backlash, on va faire un panorama justement des reculs et des régressions au niveau international avec notre partenaire Equipop.
Ça sera l'occasion de rediffuser cette émission. Et ça fait une émission à produire en moins. Je dis merci Amandine Claveau. Je rappelle que vous êtes directrice de l'Observatoire Égalité Femmes-Hommes de la Fondation Jean Jaurès. Merci à tous les amis, Quentin Lui, Manon Mariani, ce vieux briscard de Cyril Lacarrière, Ghislain Fontana était à la réalisation, Paola Collin aux manettes. Demain, c'est en quelque sorte avec le meilleur de nous-mêmes que vous avez rendez-vous à 16h pour le Zoom Zoom Best. Et puis, oui, j'ai décidé d'appeler ça comme ça. Et puis, on se retrouve lundi pour décrypter un concept qui va nécessiter que je bosse un peu en amont, là, la lobitomie. Parce que là, comme ça, je sais pas. Bref, à lundi.
Zoom Zoom Zen.